Bonjour à tous, bonjour amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France. Et oui, c'est le quiz biblique avec Sandrine et Jérôme et tous les animaux de la création, ainsi que tous les éléments de la création, hein. Le feu, l'eau, le vent, etc., etc. Voilà, donc bienvenue à tous qui êtes à l'écoute. Alors, le principe, c'est ce jeu, c'est le seul jeu proposé sur Radio Maria France dans la semaine. Alors, il faut pas le louper. Il faut pas le louper. Et même si vous prenez l'émission en cours de route, n'hésitez pas à appeler Sandrine pour venir jouer. Commençons, et nous avons donc deux auditeurs avec nous, un auditeur et une auditrice, Jean-Mathieu, et aussi sœur Jacqueline. Bonjour à
Oui,
vous.
je
Bonjour.
voulais pas, mais j'ai quand même, j'ai dit bon, je me lance aujourd'hui.
Ah, sœur Jacqueline, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup de participer. Et Jean-Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, bienvenue à tous les deux. On va commencer avec vous.
Bon, Jeanne qui vient nous rejoindre. Bonjour Jeanne.
Bonjour Brice.
Bonjour Jeanne.
Bonjour Jeanne.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jeanne.
Bonjour Jean-Mathieu.
Eh bien, voilà, c'est
Bonjour sœur
super.
Jacqueline.
Eh bien, bienvenue à tous les trois, c'est super, on va pouvoir démarrer. Je crois que on va faire dans l'ordre, hein. Jean-Mathieu avait appelé en premier. Alors, on va commencer avec Jean-Mathieu. Jean-Mathieu, est-ce que vous êtes prêt? Alors, Jean-Mathieu, laquelle de ces femmes n'est pas une collaboratrice de saint Paul? Laquelle de ces femmes, je vais vous les citer les trois, laquelle de ces femmes n'est pas une collaboratrice de saint Paul? Tabitha, Priscilla ou Phébé? Priscilla pour Jean-Mathieu. Est-ce que sœur Jacqueline, Jeanne, vous êtes d'accord avec Jean-Mathieu? Ou
Vous voulez dire les trois noms?
Tabitha, Priscilla ou Phébé?
Tabitha.
Tabitha,
Tabitha pour sœur
oui. Ouais, moi
Jacqueline,
aussi.
confirmée par Jeanne. Et oui, c'est la bonne réponse. C'est effectivement Tabitha.
Regarde, c'est bien. Bravo.
Tabitha, qui est appelée aussi Dorcas, Dorcas ou Tabitha, Dorcas c'est le nom grec, c'est une chrétienne de la ville de Joppé. Elle a été ressuscitée par l'apôtre Pierre dans les Actes
Oui,
des apôtres.
absolument.
J'ai pas la référence, j'ai pas prise. Mais en tout cas, voilà, dans les Actes des apôtres, Dorcas ou Tabitha,
Grave,
ressuscitée par
j'ai
l'apôtre Pierre. Voilà, pour Jean-Mathieu, on continue avec sœur Jacqueline.
Oui.
Sœur Jacqueline, cette fois c'est une question de date. Quelles sont les dates de service de Ponce Pilate en Judée en tant que préfet de cette région? Donc, quelle est la période où il a été donc préfet de Judée? Trois possibilités, hein, sœur Jacqueline, de 26 à 36, après Jésus-Christ, bien sûr, de 14 à 36 ou de 33 à 53, après Jésus-Christ. Donc de 26 à 36, de 14 à 36 ou de 33 à 53.
14
Oui, c'est ce que j'aurais dit.
14 à 36, sœur
Oui.
Jacqueline. Avec une
J'aurais dit la 2.
petite hésitation, Jeanne dit la même chose.
Oui, j'aurais dit la 2.
Et Jean-Mathieu?
Moi, je dirais la première. Bon,
Eh bien oui, c'est Jean-Mathieu là, cette fois c'est Jean-Mathieu qui a raison. De
ce sera petite.
26 à 36.
C'est de 26-6.
Oui.
Ah.
26 à 36 pour cette nomination et ce service de Ponce Pilate en Judée. Voilà, enfin historiquement en tout cas, c'est bien 26 à 36 qui a été retenu, hein, par.
Non, non, mais on fait une carte blanche.
Merci, merci, sœur Jacqueline.
On va pas douter sur Radio Maria quand même.
Non,
On fait
non.
le comble.
Ah non, mais ouais, le doute constructif, hein, ça peut parfois être utile, hein. Eh bien, on continue avec Jeanne.
Oui.
Alors, Jeanne, au cours de quel événement Marie était-elle présente selon le Nouveau Testament? Au cours de quel événement était-elle présente, Marie, selon le Nouveau Testament, soit le baptême de Jésus, la dernière scène ou la Pentecôte?
La Pentecôte.
Et oui, sans hésitation, Jeanne. Et oui, c'est la Pentecôte. Alors, vérification, là, cette fois, j'ai pris la référence, c'est dans les Actes des Apôtres, premier chapitre,
J'avais lu. Je l'ai lu encore la
verset.
semaine dernière en plus.
Voilà, verset 14. Tous les apôtres sont assemblés dans la chambre haute avec quelques femmes, dont Marie. Alors, ce n'est pas le tout début du récit de la Pentecôte, mais c'est juste le récit qui précède, hein. Donc,
Voilà, c'est ça, ouais.
voilà. Et on
Ça.
comprend que Marie était là
Oui.
aussi à ce moment-là.
Oui, bien sûr.
Je suis priée avec Marie.
Voilà. Exactement.
Oui, voilà, c'est ça.
Eh bien, c'est bien parti. Et nous continuons donc la question suivante avec Jean-Mathieu. Sandrine, un petit mot de... Non? Voilà, le petit agneau.
Voilà, oui, ça fait bien.
Alors, Jean-Mathieu, cette fois, oui. Nous partons dans les psaumes. Ah. Il s'agit du psaume 110 et il faut le compléter. Alors, je vais donner la première partie. Siège à ma droite, tant que j'ai fait de tes ennemis. Alors, siège à ma droite, tant que j'ai fait de tes ennemis. Et là, Jean-Mathieu, trois possibilités. Siège à ma droite, tant que j'ai fait de tes ennemis. Alors, soit des hommes errants sans patrie, ou l'escabeau de tes pieds, ou des cendres dispersées aux quatre vents.
L'escabeau de tes pieds.
Et oui, l'escabeau de tes pieds.
Mais ça, c'était facile. Hein.
Voilà, parce que c'est un psaume qu'on redit hein, souvent dans les offices.
Oui, 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 absolument.
Voilà, ouais, psaume 110, très bonne réponse de Jean-Mathieu. Et nous poursuivons avec la question suivante pour Sœur Jacqueline. Sœur Jacqueline,
oui,
are you ready?
Prête.
Alors, en dehors des évangiles, hein, des quatre évangiles, quel autre texte du Nouveau Testament pourrait parler de Marie, mais de façon allégorique? Quel autre texte, à part les quatre évangiles, pourrait parler de Marie de façon allégorique? Trois possibilités, le livre de l'Apocalypse, le livre des Actes des Apôtres ou la lettre aux Hébreux. Voilà, lequel de ces trois textes parle de Marie?
L'Apocalypse, c'est
Oui, bien sûr, c'est le livre de l'Apocalypse.
Ah oui.
Et plus précisément, au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, ah. Où il y a la fameuse vision sur la femme et le dragon.
Oui, c'est ça.
Voilà, et là. Très bonne réponse, en tout cas, de Sœur Jacqueline. Et nous poursuivons avec Jeanne.
Avec moi. Oui.
Jeanne, une question avant la question biblique. Quel temps fait-il à Mulhouse?
Il fait beau, il fait chaud.
Il paraît qu'il fait chaud en France en ce moment. Hein,
oui, 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 oui.
Y compris dans les régions du Nord.
En Suisse aussi. Hein.
Et en Suisse aussi. Voilà, on a un beau mois de septembre.
Oui, absolument.
Alors Jeanne, dans cette chaleur post-estivale, cette fois on va dans l'Ancien Testament, le prophète. Alors on va parler du prophète en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Le prophète de l'Ancien Testament, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui prédit l'avenir. Qu'est-ce qui pourrait le mieux qualifier le prophète? Alors Jeanne, trois possibilités. Il est un éveilleur de conscience. Il est quelqu'un qui est chargé du culte. Ou bien il est un fonctionnaire royal.
Fonctionnaire royal.
Fonctionnaire royal pour Jeanne. Est-ce que Sœur Jacqueline, est-ce que Jean-Mathieu, vous êtes d'accord avec Jeanne?
Éveilleur de conscience.
Éveilleur de conscience pour Jean-Mathieu?
Oui, moi j'aurais dit la même chose.
Toi aussi.
Et oui, c'est la bonne réponse, c'est la première. Il est un éveilleur de conscience.
Ah.
Et oui, parce que le prophète, il interprète de la parole divine. Alors c'est vrai que de nos jours, parfois, évidemment, le sens de mot prophète, pour ceux qui ne sont pas des biblistes, hein, il a changé de sens un peu. Ce mot désigne parfois aujourd'hui celui qui prédit l'avenir, qui prétend révéler des vérités cachées au nom d'un Dieu dont il se dit inspiré. Mais en fait, dans la Bible, le sens que donne la Bible, ce n'est pas tellement une personne qui parle de l'avenir comme un devin, mais c'est une personne qui parle au nom de Dieu, qui donne des messages de sagesse, qui dénonce le mal, qui dicte aussi des conduites à tenir. Et on peut même...
Jean-Baptiste.
Oui, Jean-Baptiste, qu'on a dit, nommé souvent le dernier des grands prophètes.
Les prophètes, oui.
Et d'ailleurs, on peut même opposer le prophète au devin. Parce que le devin, c'est quelque chose de fataliste. Il va nous dire un avenir qui est déjà en fait tracé, mais lui, il le connaît à l'avance. Mais le prophète, ce n'est pas un devin. Il intervient pour que ceux qui l'écoutent changent leur vision et leur comportement.
Oui, c'est ça.
Donc il est facteur de changement, le prophète.
Et oui.
C'est pas Madame Irma avec sa boule de cristal.
Voilà. Non, pas du tout.
Alors,
la mare de café. On va aller à la mare de café aussi.
Il faut mieux lire Saint-Marc hein, que le mare de café.
Ouais, c'est ça.
Et ensuite, nous sommes avec Jean-Mathieu.
Oui.
Jean-Mathieu, pour cette question... Alors, peut-être...
Mon ami vous passe le bonjour, en fait.
On lui passe le bonjour aussi, alors, de la part de Sandrine.
Elle s'appelle Daniel.
Eh bien, bonjour, Daniel.
Ben, nous aussi, on lui dit bonjour.
Bonjour, Daniel.
Alors, est-ce que Daniel...
Bonjour, Daniel.
Bonjour.
Est-ce que Daniel, elle souffle des réponses ou pas?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour Daniel.
Bonjour Daniel.
Bonjour, je suis la copine de Jean-Mathieu.
Eh bien, bienvenue sur Radio Maria France. On peut jouer, alors je le dis à tous les auditeurs, on peut jouer en couple, au quiz biblique, on peut même jouer en famille. Voilà, donc cette question pour Jean-Mathieu, peut-être un peu plus difficile, on va dire, hein. Bon, ce ne sont pas toutes toujours faciles, mais celui-là, il est un scribe ou secrétaire, donc il est secrétaire du prophète Jérémie. Mais bon, pour faciliter un peu les choses, il a quand même un livre qui porte son nom en raison des prophéties qu'il a lui-même laissées. Alors, qui est ce personnage qui était donc le scribe, le secrétaire du prophète Jérémie, qui a un livre de la Bible qui porte son nom? Trois possibilités.
Je n'ai pas compris la question.
Alors, il s'agit de trouver qui était le secrétaire du prophète Jérémie,
oui.
Sachant qu'il a également un livre dans la Bible qui porte son nom. Et Jean-Mathieu, qui est-ce? Donc, il y a trois possibilités. Esdras, Baruch ou Néhémie?
Jérémie.
Néhémie pour Jean-Mathieu. Est-ce que, Sœur Jacqueline, Jeanne, vous êtes d'accord? Bon, elle n'est pas facile, je reconnais.
Esdras.
Esdras,
oui,
pour Sœur Jacqueline.
Oui, ce que j'aurais dit aussi, mais bon.
Eh bien, c'était Baruch.
Et le troisième, c'était quoi?
Baruch.
Baruch.
Et c'est la réponse, c'est Baruch.
C'est Baruch, oui.
Baruch Ben Neria, Baruch qui signifie béni. Alors il a été un disciple et compagnon du prophète Jérémie. Il était d'une famille très très connue, très célèbre. Et c'est lors de l'exil à Babylone qu'il a publié ses propres prophéties qu'on retrouve dans le livre de Baruch. Alors ce livre de Baruch que les juifs et les protestants ne reconnaissent pas comme canonique et qui n'existe plus qu'en grec.
Ah bah voilà.
Bon, la question est un petit peu plus compliquée.
Ouais.
C'est tombé sur Jean-Mathieu.
Mais j'ai raté la question, c'est tout.
Ah bah écoute, on n'est pas là pour faire du 100%. Il y a en ce moment même où on parle, il y a Sandrine qui battait une omelette, hein, c'est ça?
Ce qui s'est passé là, oui.
Oui, c'était le nom.
Quelque chose qui a passé.
C'est le batteur.
D'accord.
Il fait de la cuisine.
Elle nous fait un gâteau pour après.
Voilà.
J'avais prévu de faire un gâteau, tiens.
On fait des crêpes.
Ah ben oui, des crêpes.
Alors on continue cette fois avec sœur Jacqueline.
Oui.
Alors dans quelle ville le Christ ressuscita son ami Lazare? Dans quelle ville le Christ ressuscita son ami Lazare? Trois possibilités: Béthanie, Jérusalem ou Bethsaïde.
Béthanie.
Et oui, c'est Béthanie.
Béthanie, ouais.
C'est une très très bonne réponse.
Ouais, c'est facile, hein. Ben là, oui.
Elle est plus facile que la précédente.
Oui.
C'est vrai.
Ouais, c'est ça. Elle est tombée sur une bonne question. Là.
Alors, Béthanie, hein? Oui, c'est un village de Judée. Et c'est là que vivent les amis de Jésus, c'est-à-dire ouais. Marthe, Marie et Lazare, qui est donc habité dans cette ville de Béthanie.
Ben, c'est pas sa sœur qui est venue le voir à Jésus. La haute, elle dit mon frère, il est mort.
Voilà, c'est Marthe en premier.
Oui.
Oui, c'est Marthe qui s'approche de Jésus avant même qu'il ait les yeux.
Oui.
Et alors, selon l'évangile, selon saint Jean, Béthanie était située, on va voir si vous pouvez me le dire ça, il était situé ce village à 15 stades de Jérusalem. Alors c'était oui. La façon de compter romaine, on parlait en stades.
Oui,
et vous savez combien ça fait 15 stades? Ah ah. Non, je ne l'ai pas posé celle-là parce que, un peu technique. 15 stades, ça fait 2,7 km.
Ah bon?
Donc c'était pas très loin à Béthanie de Jérusalem, on pouvait y aller à pied. Voilà, donc ça c'était, et c'est à Béthanie bien sûr que sont situées la résurrection de Lazare, mais aussi dans un autre passage, la réception de Jésus par Simon le lépreux. Simon le lépreux, maman qui va inviter Jésus à manger à sa table. Et bien sûr, le récit de l'onction de Béthanie.
Oui.
Voilà pour cette question. Très très bonne réponse de Sœur Jacqueline. On continue avec Jeanne.
Non, c'était...
Alors attends, c'est quoi comme animal ça?
C'est un oiseau, je sais pas.
C'est un oiseau, un poussin?
Pan.
Ah, c'est le pan.
Un pan, hein?
Ah oui, un pan.
Oui, c'est ça. Il fait la roue.
Alors, la question suivante pour Jeanne.
Ça, c'est mes amis.
Jacqueline, vous avez des chats?
Non, mais je m'occupe d'un chat.
Ah.
Alors, qui griffe, qui mord.
Alors, j'attends.
Ça y est, il y a toute une portée là qui se balade dans les studios. Alors, question pour Jeanne. Qu'est-ce que Pilate fait inscrire sur la croix de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait inscrire sur la croix de Jésus? Trois possibilités, Jeanne. Roi des Juifs. Deuxième possibilité, Jésus le Nazoréen, roi des Juifs. Troisième possibilité, Juif blasphémateur.
Non,
le 2, Jésus le Nazoréen, roi des Juifs. Et c'est une très bonne réponse, Jeanne.
Oui.
Et...
Hein.
Effectivement. Alors, on aurait pu répondre roi des Juifs.
Mais moi, j'aurais dit roi des Juifs.
Alors, on aurait pu. Pourquoi ? Parce que la réponse qu'on choisit là comme bonne, effectivement, Jésus le Nazoréen, roi des Juifs, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, verset 19. Jean qui nous dit, Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville. Et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Mais effectivement, comme dit Sœur Jacqueline, roi des Juifs, tout simplement, plus court, on le trouve chez Marc.
Oui, c'est pour ça que moi j'aurais dit roi des Juifs.
Voilà, on trouve chez Marc au chapitre
15. Donc les deux réponses sont bonnes ?
Donc en fait, la A et la B, les deux premières sont bonnes, effectivement. Marc dira le roi des Juifs. Et je crois que Luc et Matthieu diront à peu près la même chose que Marc. Hein, à
quelque chose, je crois.
Alors effectivement, on trouve l'acronyme, les initiales INRI. Hein, vous connaissez ?
Voilà, c'est ça.
Voilà, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Donc bien Jésus le Nazaréen. Roi des Juifs
sur la croix d'ailleurs.
Voilà, oui, sur l'écriteau, le fameux écriteau sur la croix.
INRI, c'est ça.
INRI. Et selon la formule, donc, quoi qui correspond à la formule de l'évangile selon saint Jean, écrite en latin. Et on se souvient aussi que ce même évangile, c'est-à-dire saint Jean, est le seul à mentionner que cette inscription fut critiquée, puisque les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs.
Je suis le roi des Juifs.
Voilà.
Et vous connaissez la réponse de Pilate. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.
Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.
Exactement.
Voilà.
Voilà, nous continuons. Nous sommes en plein quiz biblique, amis auditeurs. Hein. Attention, ça chauffe. Surtout qu'il fait chaud partout.
Ça chauffe dur. Hein.
Si jamais un auditeur, une auditrice qui veut participer, même les ouvriers, la 11e heure, hein, même au dernier moment, ou s'ils veulent écrire des SMS, parfois on reçoit des SMS aussi de personnes qui ne peuvent pas participer mais qui sont au travail par exemple, mais qui écoutent quand même. Voilà.
On a reçu un appel de Raymond qui est en mission pour la radio et qui en a profité pour appeler et saluer. Il a dit qu'il aurait bien aimé participer mais qu'il risquait d'y avoir des coupures, donc il s'est abstenu. Mais en tout cas, il nous a bien salué aussi.
Alors voilà, saluons Raymond qui est en mission, qui était souvent en mission, en déplacement. Voilà, notre Raymond, c'est...
Il est où hein ?
Alors, il n'est pas à Paris, non. Il a plusieurs endroits, mais il va passer notamment par l'Alsace.
C'est au courant.
Et voilà, Jeanne est au courant. Parce
oui,
que Jeanne,
17. Oui, 17, un truc comme ça, il semble.
Tout à fait.
Personne ne passe par la Suisse. Hein.
C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils ne vont pas en Suisse ?
Je suis la Radio Maria Suisse, mais que je l'écoute...
Bon, bien sûr, Jacqueline, on va en parler au Père Mathieu, on va dire, bon, là, il faut faire quelque chose. Il faut passer la frontière.
Oui, d'accord.
Voilà. Eh bien, question suivante, Jean-Mathieu.
Oui.
Alors, Jean-Mathieu, on va parler de Simon de Cyrène. Simon de Cyrène qui fut réquisitionné pour porter la croix de Jésus. Et dans l'évangile de Marc, les deux fils de Simon de Cyrène sont nommés. Et oui, les deux fils de ce Simon sont nommés. Alors, lequel est un de ses fils parmi les noms suivants ? Joseph, Jude ou Rufus ? Lequel est un fils de Simon le Cyrène ?
Le premier, je pense.
Joseph ?
Non.
Je crois que Jeanne a une idée.
Oui.
Le premier, je pense.
Joseph.
Il me semble que c'est Rufus.
Eh bien, c'est Jeanne qui a raison.
Oui.
C'est Rufus, effectivement. Alors, Simon de Cyrène a deux fils qui sont nommés dans cet évangile de Saint-Marc. C'est en Marc, chapitre 15, verset 21. Et il s'agissait donc d'Alexandre et de Rufus.
Voilà, c'est ça.
Qui étaient sans doute connus de la communauté romaine où Marc écrivit son évangile, puisqu'on suppose que Marc écrit son évangile dans une communauté romaine et dans la lettre aux Romains. Ce qui est très étrange aussi, c'est que chez Saint-Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 16, verset 13, il s'agit peut-être du même Rufus qui est nommé par Paul dans ses recommandations et salutations. Et je vous cite le passage dans l'Épître aux Romains. « Saluez Rufus, cet élu dans le Seigneur et sa mère qui est aussi la mienne. Donc on voit apparaître ce Rufus et bon, certains spécialistes pensent que c'est peut-être le même fils de Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus. Voilà. Ben, sans... Ah bah alors, il était où l'agneau?
Alors, on n'a pas entendu.
Vous avez connu le père Mathieu, là?
Jean-Mathieu a connu le père Mathieu? Vous l'avez rencontré, Jean-Mathieu?
Pardon. Ouais, j'ai rencontré, il était au séminaire à Arx.
Ah.
De qui il parle? Qui
il a été nommé en 2013.
Ah.
Voilà, du père Mathieu.
Ah bah ça, il nous a pas tout dit, le père Mathieu. Le père Mathieu, qu'il était à Ars à un moment.
Tout d'un coup, il parle du père Mathieu alors qu'on est dans une évangile.
Oui, voilà, bon, il y a un évangile, un évangéliste qui s'appelle Mathieu.
Oui, absolument.
Bah, merci pour cette précision biographique, hein, Jean-Mathieu.
Mais c'est pas tout à fait juste.
Père Mathieu a été ordonné à Ars, hein, ça c'est sûr. Et... Voilà. Ça c'est vrai, il a reçu son ordination là-bas. Donc...
Ça c'est les Mathieu entre eux, ils se retrouvent, voilà. Alors, est-ce qu'on poursuit avec Sœur Jacqueline? Sœur Jacqueline, cette fois il s'agit de compléter une phrase. Et c'est une phrase de Jésus, et c'est dans l'évangile de Luc. Alors voici le début de la phrase. Qui est fidèle en très peu de choses? Et là il faut trouver la suite, trois possibilités. Ne peut pas être fidèle dans les grandes choses, est fidèle pour rien, ou est fidèle aussi en beaucoup?
Est fidèle aussi en beaucoup.
Et oui, bien sûr.
Oui, c'est ça.
Très très bonne réponse, Sœur Jacqueline. Qui est fidèle en très peu de choses, est fidèle aussi en beaucoup. C'est dans le chapitre 16 chez Luc, verset 10. Enfin, la phrase complète, c'est qui est fidèle en très peu de choses, est fidèle aussi en beaucoup, et qui est malhonnête en très peu, est malhonnête aussi en beaucoup.
Voilà,
cette phrase de belle phrase dans Saint-Luc.
Tiens.
C'est le hibou, ça, ou la chouette?
C'est
un coucou, non? Ou bien...
C'est le hibou, ça.
Oui. Un hibou.
C'est le hibou.
Ça commence à faire noir, hein.
Ah, donc c'est pas le hibou que j'entends le soir.
Non, même pas. Non, j'attends.
Pourtant, il fait pas de nuit.
Il commence à faire noir, là. Il commence à faire noir, alors. Hein.
J'ai peur, je rentre.
Je vais l'obliger à terminer l'émission, hein.
Oui.
Alors, continue avec Jeanne. Alors, Jeanne, nous allons faire un grand voyage.
Ah bon ?
Un grand voyage en arrière.
Oula.
En Genèse.
Ah.
Et dans celui de la Genèse, la question, c'est comment s'appelait la fille aînée de Laban, cette fille aînée de Laban qui fut donnée en mariage à Jacob, le grand Jacob. Comment s'appelait donc la fille aînée de Laban qui fut donnée en mariage à Jacob? Trois possibilités, Jeanne. Rachel, Léa ou Rebecca? Ouh là là.
Rebecca. J'ai pensé à Léa, mais...
Rachel, Léa.
Léa, non.
Hein?
Rachel, Léa ou Rebecca?
Je dirais Rebecca, je ne sais plus.
Alors, Sœur Jacqueline?
Moi, je dirais Léa.
Léa et Jean-Mathieu?
Léa.
Ben, Léa aussi.
Hein. Eh oui, c'est Léa.
C'est Léa.
C'est
oh là
Léa.
Là.
Et là, c'est dans Genèse chapitre 29, à partir du verset 16. Laban avait deux filles, dont l'aînée était Léa, et la cadette,
oui.
Rachel.
Oui.
Alors Jacob est amoureux de Rachel.
Ah oui, c'est ça.
Ça, c'est le problème, c'est que Jacob est amoureux de Rachel. Hein. Léa avait de très beaux yeux, c'est dit dans le texte. Hein. Léa avait des yeux très doux, je crois que c'est le terme utilisé dans le texte. Mais il est amoureux de Rachel. Alors, le problème de Jacob, c'est qu'il va devoir épouser Léa d'abord.
Oui, après 7 ans et encore une fois 7.
Alors, pourquoi il va devoir épouser d'ailleurs Léa d'abord?
Ah,
question.
Suspense. Alors non, il va devoir épouser Léa parce que tout simplement, c'est la coutume familiale.
La coutume,
ouais. Et oui, le père, c'est-à-dire donc Laban, eh bien, il faut d'abord qu'il marie l'aîné.
Oui,
et voilà, c'est dans l'ordre des choses de cette tradition familiale à l'époque, en tout cas. Donc Jacob va devoir épouser Léa, et ensuite, dans un second temps, évidemment, comme l'a dit Jeanne, il épousera Rachel. Excellente réponse, en tout cas. Et nous poursuivons, chers amis auditeurs de Radio Maria France. Ouais. Et nous sommes avec Jean-Mathieu.
Ah.
Et Jean-Mathieu, on va rester dans l'Ancien Testament. On va dans le premier livre des rois. Là, alors là, quand j'entends le premier livre des rois, comme je lis pas tous les jours, loin de là. Alors, dans le premier livre des rois, sur quel mont le prophète Élie va-t-il défier les prêtres de Baal? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce récit, il y a un défi énorme entre Élie, le prophète de Yahvé, et puis tous les prêtres de Baal qui ont ce culte de l'idole Baal, dans le premier. Et voyons une grosse bataille entre Élie et les prêtres de Baal. Mais la question, c'était surtout sur à quel endroit ça se passe, c'est-à-dire sur quel mont. Alors, Jean-Mathieu, trois possibilités. Carmel, le mont Hébron ou le mont Sinaï? Le mont Carmel, le mont Hébron, le mont Sinaï. Le Sinaï pour Jean-Mathieu. Sœur Jacqueline, Jeanne, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Mathieu?
Moi, je dirais le mont Hébron.
Hébron, oui, c'est ce que j'avais pensé. Oui.
Hébron pour Sœur Jacqueline, pour Jeanne. Sinaï pour Jean-Mathieu. Et non, c'est le Carmel. Mais effectivement, c'est cité dans le premier livre des rois, c'est au chapitre 18 à partir du verset 20. Le mont Carmel est cité dans le texte. Ce qui veut dire d'ailleurs, si on traduit de l'hébreu littéralement en français, ça veut dire le vignoble de Dieu. C'est beau comme nom, le vignoble de Dieu. Et c'est une montagne côtière d'Israël qui surplombe la mer Méditerranée. Alors pour ceux qui sont allés en Terre Sainte et qui ont pu le visiter, on a la ville de Haïfa qui se trouve en partie sur le flanc du mont Carmel, puis d'autres petites villes. Et ce mont Carmel a été considéré comme un lieu qui offrait un accès vers Yahvé. On le trouve par exemple, cette passage dans le livre d'Amos, c'est vraiment un lieu privilégié pour rencontrer Dieu. Et puis bien sûr, donc le passage qu'on vient de citer, le prophète Élie et y résidait d'ailleurs. On a retrouvé sur le mont Carmel plein de grottes, on a même retrouvé des traces de vie depuis l'homme de Cro-Magnon, depuis même Néandertal. C'est-à-dire que l'homme a toujours occupé ce lieu depuis très très longtemps. Le prophète Élie y résidait, et on l'a appelé d'ailleurs parfois le mont Saint-Élie, en raison de cette information. Et c'est sur le mont Carmel que donc vont s'affronter les prêtres de Baal au nom du Dieu d'Israël. Voilà. Eh bien, nous en sommes au niveau du timing. On va faire peut-être une dernière question, parce qu'après on a l'office des vêpres.
Ah.
Ou deux, peut-être deux, on va voir. Alors la question suivante pour Sœur Jacqueline.
Oui.
Alors, on a un mot qui est cité dans l'évangile de Marc, et c'est un mot araméen. Et ce mot signifie offrande, spécialement offrande faite à Dieu. Alors, quel est ce mot araméen qui signifie offrande à Dieu? Trois possibilités: Lema, Talita ou Corban. Quel est ce mot qui signifie offrande à Dieu que l'on trouve dans l'évangile de Marc? Et même, je peux préciser, hein, l'évangile, c'est au chapitre 7.
Allez.
Lema, Talita ou Corban?
Talita,
la 3.
Talita,
oui, Corban.
Et oui,
j'ai
c'est
pas
Corban.
Fait la 3.
Oui, oui, c'est Sœur Jacqueline, Jeanne, c'est bon, c'est ça, c'est Corban.
Corban, oui.
Et vous pouvez. Vous pouvez faire la vérification, c'est au chapitre 7 chez Marc, au verset 11. Et je suis obligé de dire la question suivante parce que c'est un peu la suite de celle-ci.
Et c'est la suite, oui.
Et cette question, donc, pour Jeanne. Après, bon, pour tous les trois, mais on va dire, voilà, Jeanne en premier va répondre, et puis ensuite, ce qu'on fait depuis le début d'ailleurs. Hein. Alors, on va rester dans ce même passage, chez Marc. Et dans ce passage, que reproche Jésus aux hommes qui font cette offrande, justement, cette offrande sacrée à Dieu, ce corban? Qu'est-ce que reproche Jésus aux hommes qui font cette offrande? Dans ce passage, au chapitre 7 de Marc, trois possibilités. Jésus leur reproche d'offrir leur superflu. Genre, on est très riche, mais on donne un petit peu parce que justement, on peut se le permettre. Deuxième possibilité, Jésus leur reproche de donner avec mauvaise volonté. Troisième possibilité, Jésus leur reproche de donner au détriment des besoins de leurs parents.
Ben moi, j'ai pensé à la première.
Jésus leur reproche d'offrir leur superflu pour Jeanne.
La troisième.
Ça peut être la 3, hein. Voilà.
La troisième pour Sœur Jacqueline.
Moi, je dirais la deuxième, moi.
Et la deuxième pour Jean-Mathieu, comme ça tout le monde en a dit une. Eh bien, c'est Sœur Jacqueline qui a raison.
Sœur Jacqueline, elle a 3.
Et oui, Jésus leur reproche de donner au détriment des besoins de leurs parents.
Au détriment des besoins.
Alors si vous voulez vérifier, c'est Marc chapitre 7, versets 11 à 13. Je vous cite le passage. « Si un homme dit à son père ou à sa mère, je déclare Corban, c'est-à-dire offrande sacrée, les biens dont j'aurais pu t'assister, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère et vous annulez ainsi la parole de Dieu, par la tradition que vous vous êtes transmise. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que leur reproche Jésus? Ben, il leur reproche de faire prévaloir leur tradition en oubliant la charité la plus élémentaire. Ils laissent leurs parents dans, dans le besoin pour faire leur corban. Et donc, la tradition est vaine si elle annule l'esprit de charité. Alors Jésus ne dit pas que la tradition est mauvaise, il dit qu'elle est mauvaise si jamais elle prend le pas, bien sûr, sur la charité élémentaire.
C'est ça.
Voilà, ce beau passage hein, chez Marc. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'on a une belle émission sur l'évangile de Saint Marc, qui a commencé aujourd'hui, juste avant le quiz biblique.
C'était magnifique.
Hein, oui, c'était beau.
Avec le père Philippe de Maistre, qui va intervenir une fois par mois, deuxième vendredi. Très très beau.
J'attends. Hein.
Très bel enseignement sur, sur Marc. Hein.
Oui.
Voilà, en tout cas, on arrive à la fin. Merci à tous les trois hein, d'avoir d'être les
merci
fidèles.
Merci à Jérôme,
fidèles
à Sandrine.
Alors attendez, il y a quand même Jean-Mathieu, je viens d'entendre, qui vous demandait une rallonge. Je pense qu'on peut y aller. Allez, pour une dernière question, avant l'Office des Vêpres. C'est une question très courte, je vous la pose à tous les trois.
Allez-y.
Est-ce que vous êtes prêts? C'est plus une devinette, hein, d'ailleurs, qu'une question.
Ah.
Pourquoi les pigeons roux ne peuvent pas nager? Pourquoi les pigeons roux ne peuvent pas nager?
Parce qu'il n'y a pas de pigeons roux.
Si, il y en a, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Pourquoi les pigeons roux ne peuvent pas nager? Alors, est-ce qu'il y en a...
Parce qu'ils n'ont pas de nageoires.
Parce qu'ils n'ont pas d'ailes.
Ah, et Jean-Mathieu?
Ils n'ont pas de plumes.
Et les pattes?
Ah,
je sais pas.
Je crois que vous donnez tous votre langue au chat.
Oui.
Alors, ben parce que les pigeons roux coulent.
Ah, c'est ce que je voulais encore dire tout à l'heure, parce qu'ils roux. Et je me suis dit,
Voilà, c'est sûr.
Ben oui, ils roux coulent.
Ils roux coulent. Tant Jacqueline, merci beaucoup Jeanne. On est obligé d'arrêter parce que les vêpres vont commencer. Merci Jean-Mathieu.
Merci à vous Jeanne et à tout le monde.
Soyez bénis.
Au revoir.
Merci à Mathieu.
À très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
À bientôt.
À bientôt.
Soyez bénis.
Et merci Sandrine.
Merci Jérôme.